Lundi soir prochain au Café Larter, le mouvement québécois pour une décroissance conviviale organise une soirée débat sur la question « Pour s'engager dans la décroissance, doit-on tourner le dos à la civilisation? » Depuis une quarantaine d'années, avec le développement et l'essor du mouvement écologiste, on assiste effectivement à toute une réflexion sur la question de la civilisation. Ainsi, se demande-t-on dans certains milieux, est-ce que pour sortir de l'impasse actuelle, notamment en matière environnementale, il faut nécessairement sortir de la civilisation, ou si au contraire, il ne serait pas plutôt possible d'en poursuivre l'aventure mais en la refondant sous de nouvelles bases et suivant un nouveau paradigme. Alors, afin de discuter des différentes positions dites anti-civilisationnelles, bien avec nous au bout du fil, Jean-Luc Cessire. Jean-Luc, bonjour.
Bonjour.
Alors, que l'on parle de mouvements anti-civilisationnels, écologie radicale, écologie profonde, anarchisme vert, primitivisme, c'est autant, on pourrait dire, de perspectives d'une critique de la civilisation qui, dans une certaine mesure, ne date pas d'hier. On peut remonter même jusqu'au 19e siècle pour voir apparaître cette critique-là dans la foulée, finalement, de la révolution industrielle qui apparaît à ce moment-là.
Oui, on voit plusieurs fois, on peut même dire avant, dès la période de la colonisation en Amérique, entre autres, puis à beaucoup d'autres époques, il y a toujours une résistance, autant des populations locales qu'une désertion aussi de la part de certains colons qui, justement, découvrant un mode de vie plus libre, ont préféré choisir celui-là plutôt que la civilisation ou la société civilisée à laquelle ils appartenaient. Mais on a une accélération peut-être de la résistance et de la critique avec, entre autres, la révolte ludite il y a 200 ans avec les ouvriers anglais qui se sont mis à briser les machines. Et on peut dire qu'il y a des courants théoriques qui viennent commencer à présenter cette perspective-là dès le milieu du 19e siècle avec un écrivain comme Henri David Thoreau aux États-Unis ou William Morris en Grande-Bretagne.
Mm-hmm. Et bon, lorsqu'on parle de civilisation, de critique de civilisation, il faut savoir de quoi on parle. Donc, comment on pourrait définir la civilisation? Parce qu'il n'y a pas vraiment question aussi, mettons, de civilisation occidentale, industrielle. On parle vraiment de la civilisation dans son ensemble jusqu'à ses origines en Mésopotamie, là.
Oui, c'est certain que la forme aggravée qu'on vit présentement, c'est celle qui nous fait réfléchir au problème. Mais entre autres, quand on réfléchit, on tend à aller plus loin. Au niveau des définitions, je vais y aller peut-être de deux définitions. Ma favorite, qui est celle de l'écrivain Anatole France, qui dit « La civilisation, c'est l'état actuel des mœurs. Mm-hmm. La barbarie, ce sont tous les états précédents. » Donc, ce qu'on associe à la civilisation, c'est vraiment notre propre mode de vie et le mythe qui l'explique, tout ce dont on vit en continuité. Mais la définition que je vais utiliser ici serait peut-être la plus utile, serait celle de Derek Jensen, qui est un des penseurs de la critique anticivilisationnelle. Pour Jensen, la civilisation est un mode de vie qui repose sur la croissance des villes. Sa définition d'une ville, c'est un lieu de population humaine d'une densité telle qu'elle oblige l'importation de ressources. Mm-hmm. Puis pour beaucoup de gens, dans ces courants-là, qu'on peut qualifier d'anarchie verte ou d'anticivilisation, c'est une des clés du problème. Le fait qu'on crée des modes de vie dans lesquels on est obligé d'aller chercher au-delà de notre terroir local les ressources pour que notre population puisse subsister.
Et l'origine de ces villes-là, justement, nous faire monter jusqu'à la révolution néolithique de certaine façon. Et à partir de ce moment-là, on a vu des sociétés, des civilisations qui ont justement grugé leur capital naturel jusqu'à l'extinction. Il y a plusieurs exemples à travers l'histoire, finalement.
Oui, absolument. Si on regarde le cas du croissant fertile, c'est une région qui, justement, a été un des berceaux de l'agriculture. Et maintenant, des pays comme l'Irak qui sont absolument désertiques. On a toute l'Afrique du Nord qui était le grenier à blé de l'Empire romain qui est maintenant en grande partie désertifiée. En fait, la seule zone où l'agriculture a pu compter sur plusieurs millénaires de façon continue avec de bons résultats, ça avait été la plaine inondable du Nil en Égypte, parce que bien qu'ils irriguaient, les crues du Nil qui emmenaient des alluvions du cœur de l'Afrique renouvelaient le sol. Mais depuis qu'ils ont bâti le barrage d'Assouan pour pouvoir produire de l'électricité et contrôler les inondations, ben l'agriculture en Égypte s'est aussi effondrée, puis la terre se sale et devient aride.
Maintenant, tu me corrigeras si je me trompe, mais on pourrait dire qu'il y a différentes variantes de la critique anti-civilisationnelle, disons peut-être divers degrés d'appréciation de la critique. J'imagine qu'un Derek Jensen et un John Zerzan n'ont pas nécessairement les mêmes idées sur l'ensemble de la critique. Mais si on regardait peut-être les éléments transversaux qui traversent là, ces différents courants de pensée-là, quelles seraient les principales critiques que l'on adresse à la civilisation?
Ben, en gros, je pense que les deux sont complémentaires. Chez Jensen, la question de la ville est très importante. l'apparition de l'agriculture qui permet de stocker les surplus, puis à partir de là, d'établir une division sociale du travail, une hiérarchie, la question de l'expansion qui mène à l'impérialisme. Et aussi, chez Jensen, un des trucs importants, c'est l'omniprésence de la violence dans le processus qui permet la civilisation, qui permet d'aller prendre les ressources des autres. Chez Zurzon, un aspect qui est moins présent chez Jensen, c'est l'importance de la culture symbolique, qui est quand même quelque chose qui est très récent dans l'histoire de l'humanité. On en a entre autres pour preuve le fait qu'on trouve souvent de très vieux outils, des anciens humains, mais on trouve rarement des tombes où justement il y a des artefacts qui sont enterrés. On trouve peu de représentations artistiques. On rapproche toujours la date de ces choses-là, alors que la capacité de faire des outils, se livrer à des activités assez complexes pour la survie, on la rapproche toujours. On vient même de découvrir au Timor oriental des restes de gens qui faisaient de la pêche en haute mer il y a 45 000 ans. Donc, on se rend compte que les humains avaient beaucoup de capacités, mais l'ont pas fait pour faire des représentations symboliques. Et dans la mesure où ils n'enterraient pas leurs morts de façon très précise, ça laisse entendre qu'il n'y avait pas une culture symbolique qui était dominante à cette époque-là.
Mm-hmm. Tu m'amènes justement sur l'aspect de la technique, la technologie. Justement, je pense qu'on, du côté des mouvements civilisationnels, on fait une distinction entre ce qu'on appelle la technique, les outils primitifs, pourrait-on dire, et la technologie de l'autre côté, qui est tout un ensemble de représentations symboliques et tout ça.
Oui, c'est une critique qui est très importante chez quelqu'un comme Zurzon, qui justement, je pourrais dire, c'est un des trois piliers avec la culture symbolique. La question de la domestication, qui est très importante pour lui, domestication des animaux, qui donne aussi lieu à des hiérarchies sociales à l'intérieur des groupes humains, et aussi qui serait à l'origine du patriarcat. Et aussi la question de la technologie et de l'aliénation qui se crée avec la technologie. Puis là-dessus, il y a des auteurs qui sont pas directement anti-civilisationnels, mais qui ont beaucoup inspiré ces courants-là, qui ont beaucoup écrit sur la technologie, comme Lewis Mumford ou Jacques Ellul. Et chez Mumford, il y a une belle définition des technologies qu'il appelle autoritaires et d'autres qui sont démocratiques. Je pense qu'une grande partie de notre critique repose là-dessus. Genre, j'ai rien contre une technique qu'on peut reproduire par nous-mêmes, qu'on est capable, à l'intérieur d'un groupement humain, de notre propre volonté, qu'on puisse reproduire, qu'on puisse se transmettre volontairement. Mais l'idée d'une technique qui demande d'arraisonner les ressources de la nature, qui demande de soumettre d'autres humains et des choses comme ça, ce sont des techniques à rejeter.
Et quand on regarde ça, mettons quelqu'un qui regarde ça de loin pourrait se dire, en fait, la critique que vous amenez, c'est comme si, en fait, il y aurait eu une cassure majeure, bon, avec l'apparition des villes et tout ça, qui aurait finalement un peu fait disparaître ce qu'on appelait le paradis perdu, je sais pas trop. Est-ce que l'idée, c'est de revenir finalement à cet état de nature, entre guillemets, qui était celui des civilisations, des sociétés humaines, en fait, avant l'arrivée des villes et de la civilisation?
Je pense pas. Je pense justement, beaucoup de gens ont un peu abusé du terme parfois anarcho-primitiviste en laissant entendre que c'est un projet ou que c'est une espèce d'utopie. Je pense qu'au contraire, la plupart de ces penseurs-là perçoivent ça plutôt comme une réponse au fait que la civilisation, en son état actuel, ne peut plus se reproduire. Que l'état de l'écocide en cours, l'état de la destruction présente du monde, c'est ce qui menace réellement la continuité de la vie. Et on doit donc rompre avec ça. Je pense que on se rend tous compte très bien qu'on deviendra pas des chasseurs-cueilleurs en une génération ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment une transition qui nous demande de nous éloigner à toute vitesse de ce mode de vie-là, parce que il menace tellement la vie. On tue à tous les jours de 150 à 200 espèces connues qui sont éteintes. Et il y a quelque chose comme 90% des grands poissons dans l'océan qui sont disparus. Donc, il faut qu'on s'éloigne de ce mode de vie-là, puis je pense que notre critique tend surtout à dire que l'humain n'a pas toujours vécu de la manière dont on vit. Ce qu'on prétend être notre identité, notre seul mode de vie, n'est pas du tout le mode de vie exclusif. Puis en fait, il y a toujours eu une énorme diversité des modes de vie humains. C'est un peu à ça qu'on aspire à revenir.
Mm-hmm. Et justement, dans cette optique-là, bon, il y a plusieurs gens qui critiquent votre critique, si on peut dire. Et notamment, il y a peut-être des gens qui avanceraient l'idée que vous, il y a peut-être une idéalisation excessive, peut-être des sociétés du passé, ou notamment, on fait beaucoup référence, notamment pour les penseurs d'Amérique du Nord, aux sociétés autochtones qui, dans les faits, n'étaient pas toujours nécessairement des exemples de sociétés sans aucune forme d'oppression ou d'exploitation de la nature d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ce genre de critiques-là?
Ben, je pense qu'il était quand même beaucoup moindre. On voit des populations qui sont soutenues. Un exemple que Jensen donne souvent, là où il habite, les Indiens Tolwa ont habité ce territoire-là depuis au moins 12 000 ans. Et ils ont toujours vécu sur le même territoire et ils n'en ont pas complètement épuisé les ressources. Et par contre, c'est en Californie, puis c'est maintenant peuplé et développé depuis 160 ans, et ce territoire-là est dans un très, très mauvais état. Donc, notre mode de vie peut pas se reproduire, et historiquement, on voit que toutes les civilisations ont fini par s'effondrer en atteignant les limites de leur extrême complexité. Donc, je pense qu'il y a des bons exemples de soutenabilité. Je pense pas qu'on imiterait en entier le mode de vie des anciens habitants de l'Amérique, mais il y avait la compréhension de certaines choses qui est importante. Puis je dis pas qu'ils ont parfois peut-être fait un peu de surchasse, mais on voit, entre autres, dans la culture des Indiens des Plaines, on punissait sévèrement la surchasse. Mm-hmm. Il y avait vraiment tout un code. Donc, ces gens-là ont fait des erreurs. Ils l'avaient intégré dans leur code culturel. Alors que nous, on vit plutôt dans un mode où on gratifie ces erreurs-là. Les gens qui surexploitent sont généralement gratifiés dans le mode de vie capitaliste et industriel.
Mm-hmm. Donc, au lieu de reproduire, l'idée serait plutôt de s'inspirer, finalement, de ces sociétés du passé-là.
Définitivement, parce que les défis auxquels on fait face sont autres que ceux auxquels ces gens-là faisaient face. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est d'abord et avant tout préserver certains de ces modes de vie alternatifs-là et le plus rapidement possible en intégrer plusieurs savoirs à notre mode de vie. Mm-hmm. Parce que il y a quelque chose, je disais peut-être dans un sens de critique ou une sorte d'apologie qu'on fait de la civilisation récemment. Un auteur qui s'appelle Steven Pinker a écrit un livre qui s'appelle « The Better Angels of Our Nature ». Et si on dit que nous, d'un côté, on idéalise un peu le mode de vie primitif, mais il y a une idéalisation énorme dans la culture dominante de notre mode de vie qui correspond pas du tout à la réalité. Entre autres, il y a l'affirmation voulant que notre époque soit la moins violente de tous les temps. C'est vraiment une idée à laquelle, moi, personnellement, je m'oppose à tout prix. Parce que bien qu'il y ait peut-être moins de meurtres, d'agressions dans nos sociétés, on est contemporain d'une guerre civile au Congo dans laquelle beaucoup d'intérêts économiques, y compris canadiens, ont joué un rôle, qui a fait plus que 6 millions de morts. Et cette guerre-là, qui serait la troisième plus meurtrière de l'histoire, a été absolument ignorée. Et cette guerre-là se fait pour les composantes de nos Xbox et de nos iPhones. Mm-hmm. Et que je pense que pour dire que la civilisation est quelque chose d'assez agréable et de non-violent, ben il faut faire des contorsions bien pire que celle qu'on fait parfois pour démontrer l'exemple contraire.
Si on voulait critiquer ou relativiser le propos de Steven Pinker, on pourrait dire que la violence, si elle a diminué, c'est que simplement qu'on l'a exportée ailleurs ou on l'a intériorisée à l'intérieur de nous.
Oui, absolument. Je dirais, moi, je vois trois composantes. Tu as parfaitement raison. On l'exporte beaucoup vers d'autres humains et vers d'autres espèces, dont je disais que beaucoup s'éteignent à tous les jours. On en internalise et on en garde un peu en réserve au cas où où on voudrait défier l'autorité. Mais je pense que les deux éléments clés sont ceux-là, l'exportation et justement l'internalisation. Puis au niveau des dégâts, je voyais un chiffre tout à fait alarmant qui date de 1998 et qui expliquait que de toute la masse des animaux terrestres vertébrés, les humains, au début de la civilisation, représentaient un dixième de 1% de la masse avec leurs animaux domestiques. Les humains, leurs animaux d'élevage et domestiques, étaient un dixième de 1% il y a 10 000 ans. Ils sont passés dans les années 60 à 25% avec leurs animaux d'élevage. Et en 1998, c'était 97% de la masse des vertébrés terrestres, et ça inclut aussi les oiseaux, qui étaient maintenant les humains et leurs animaux. Ce qui veut dire que notre mode de vie a à toute fin pratique laissé aucune place à la nature sauvage.
Mm-hmm. On a pris toute la place.
Donc, littéralement. Puis si on regarde en plus le dommage qui a été fait à d'autres communautés humaines, à des modes de vie alternatifs autres que notre mode de vie industriel et capitaliste, bien il y a une perte encore plus grande de savoir puis de diversité culturelle humaine, mm-hmm, qu'on a eu dans la nature même.
Maintenant, si on veut se sortir de la situation, disons que c'est un vaste chantier qui nous attend. Et oui. Il y a plusieurs façons de militer en ce sens-là. Puis peut-être justement une critique qui est adressée, notamment à certains courants plus vindicatifs. Il y a la question en fait de la violence. Certains groupes justement qui se réclament des mouvements anti-jeunesse qui ont perpétré, bon, disons, au nom des attentats, en fait, s'attaquer à la propriété privée, tout ça, ce genre de choses, faire sauter des machines, tout ça. Donc, c'est, disons, on pourrait dire, mal perçu au sein de la société, ce genre de geste-là. Comment vous réagissez dans les différents mouvements face à cette question de la violence dans la lutte?
Ben, je pense que c'est très difficile si on fait face à un adversaire qui est violent, qui utilise des quantités de violence absolument extraordinaires. Je pense que c'est très difficile de faire face à ça de façon non violente. Puis je citerai ici l'écrivaine indienne Arundhati Roy qui disait la non-violence, c'est une pièce de théâtre. Elle dit qu'est-ce que vous faites quand il n'y a pas de public? Et je pense que dans la mesure où le fait de résister à cette destruction-là puis à l'écocide en cours, c'est pas quelque chose qui peut juste se faire dans l'arène culturelle puis dans une représentation médiatique. Donc, je pense qu'il y a un besoin réel. Puis, je suis pas en train de dire que la violence est la solution, mais je pense que si on fait face à des moyens destructeurs qui menacent la continuité de la vie, on peut pas s'attacher une main derrière le dos. On peut pas se limiter à des moyens spécifiques et dire qu'on va le faire à coup de pétition. Ben, je suis d'accord que des gens fassent des pétitions. Je pense qu'il y a des moyens. Je pense qu'il y a des moyens de violence, de désobéissance civile non violente. Mais si on comprend l'ampleur de la destruction, je pense qu'on a à être solidaire avec des gens comme le mouvement d'émancipation du delta du Niger qui attaque les plateformes pétrolières. Je pense qu'on a à être solidaire avec les Naxalites en Inde qui défendent leurs montagnes sous lesquelles il y a de la bauxite que l'industrie veut exploiter. Je pense qu'on a besoin de tous les moyens parce que cette cause-là est vraiment sérieuse. Et donc, je pense pas qu'on peut vraiment faire une catégorie. Et entre autres, je pense qu'on se trompe en qualifiant de violence la destruction de propriété. Je crois que la propriété elle-même est une forme de violence.
Maintenant, je disais en introduction, depuis une quarantaine d'années, on pourrait dire un renouveau de cette pensée-là antisociationnelle, un essor de la critique, de plus en plus de penseurs, de gens qui s'interrogent la question de la civilisation. Mais on pourrait dire que cette critique-là, à divers degrés, on peut prendre par exemple deux documentaires qui sont sortis cette année, notamment NCIV, qui se consacre à la pensée d'Eric Jensen, réalisé par Franklin Lopez, versus un autre documentaire, Survivre au progrès, de Mathieu Roy, Harold Crooks, où dans les deux cas, on s'attaque à la notion de progrès de civilisation, mais on pourrait dire que les conclusions ne sont pas nécessairement les mêmes en bout de piste.
Oui, peut-être tu peux me guider là-dessus. J'ai vu Survivre au progrès, j'ai beaucoup de difficulté à lui attribuer une véritable conclusion, tant j'ai l'impression que ce film-là explore dans plusieurs directions à la fois. Donc, tu interpréterais comment, toi, la conclusion, s'il y en a une, de Survivre au progrès?
Ben, en fait, moi, je vois plutôt comme un aménagement, finalement, de la civilisation. C'est peut-être plus ça qui sort. On critique le progrès, oui, mais on veut garder, finalement, une part de ce voyage de l'humanité depuis 10 000 ans, pourrait-on dire.
Oui, et si j'ai un problème, peut-être avec ça, un peu tout le long du film, j'ai un peu l'impression que ce qu'on nous reproche, c'est d'être cette créature, cet animal qui a trop peu évolué dans les 50 000 dernières années, et de pas être adapté à la situation dans laquelle on vit. C'est un peu comme si je voulais descendre au fond d'un volcan au bout d'une corde, puis j'y parvenais pas parce que ma peau est trop sensible, et que là, j'aspirais à avoir une peau plus épaisse ou résistante au feu. Je pense que c'est un peu ridicule, c'est poser la question à l'envers. Je pense qu'on doit vraiment questionner là où on en est. Donc, on doit admettre qu'il n'y a pas d'intérêt pour un humain de descendre au fond d'un volcan. Donc, de vivre un mode de vie qui est éminemment destructeur, je pense que c'est pas quelque chose qui est envisageable et on n'a pas à se transformer pour s'adapter à ça. Puis je pense que dans NCIV, c'est bien dit, c'est encore Derek Jensen qui parle, il dit qu'on a tendance, quand on questionne la destruction, à toujours prendre pour acquis notre mode de vie industriel. Et on essaie de faire les aménagements et on espère qu'il y aura encore de la vie malgré ça. Alors que je pense qu'on doit prendre la continuité de la vie comme la priorité absolue. Et s'il faut sacrifier notre mode de vie industriel, ben, il est évident qu'on doive accepter de le sacrifier.
Une chose qui est sûre, c'est qu'il y a plusieurs réflexions autour de cette question de la civilisation quand on n'a pas fini d'en entendre parler. Le débat va se poursuivre dans les prochaines années. Et justement, peut-être un début de débat pour poursuivre, ben c'est lundi soir prochain. D'ailleurs, tu seras présent lors de cette soirée débat qu'organise le Mouvement québécois pour une décroissance conviviale lundi soir prochain au Café Larter. Donc, il sera, pour les gens qui seraient intéressés à poursuivre la réflexion, la discussion, ils seront les bienvenus à cet événement-là. Donc,
Ouais, j'apprécie beaucoup de pouvoir échanger sur le sujet avec, comme ça, les gens du mouvement de la décroissance. Je pense que ça peut donner lieu à des conversations très intéressantes.
Bien, parfait. Ben, Jean-Luc Cessir, bien, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes ce midi et à une prochaine peut-être.
Bonne journée à toi.
Merci.